jours. Soyez bénis. Je voudrais vraiment remercier mes amis Anaïs et Alain, voilà, pour leur intervention, parce que ça fait du bien de savoir qu'on a la même vision des choses, la même pensée. Et puis c'est parfait, puisque j'aimerais étayer tout ce qui vient d'être dit justement dans ce message. Donc c'est super. Merci Seigneur, parce que tu nous guides sur un chemin qui est le tien. Et oui, moi je dirais, Alain, oui, je crois qu'il y a une nouvelle naissance qui est en cours. Et nouvelle naissance, ça veut dire que, charnellement, un bébé est en train de sortir du ventre, vous voyez. On expulse quelque chose vers... on expulse l'enfant du ventre de sa mère vers l'extérieur. Et on le sait, une naissance, c'est douloureux pour les femmes, pas que d'ailleurs, nous les hommes, ceux qui sont pères et qui ont assisté à l'accouchement, à la naissance de leurs enfants, nous aussi nous souffrons, on voit nos femmes qui sont toutes rouges comme ça, on dit qu'est-ce qui se passe, elles ne respirent plus, réveillez-la. Nous aussi on souffre à notre manière. Ouais, une naissance, ce n'est pas rien, c'est douloureux. Et nous sommes cet enfant. Et nous avons accepté d'ailleurs cette nouvelle naissance. C'est nous qui avons accepté. C'est nous qui avons dit oui à Jésus. Sous-entendant que nous allons devoir souffrir pour naître de nouveau. Et vous savez, pendant la louange, à un moment donné, je priais, je disais, oui Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus. Et il m'a dit, toi viens. Toi viens. C'est comme si nous appelions Jésus. Alors on va imaginer ça, comme quoi la mère serait charnelle. Et on dirait à Jésus, nous l'enfant à naître, viens avec moi dans le ventre. Mais Jésus lui t'attend en fait à la sortie, il te dit, toi sors. Tu comprends? Alors j'ai beaucoup aimé cette parole qui m'a été donnée, du coup merci pour la vision aussi. Et j'ai intitulé ce petit message « Des petits dieux ». Alors évidemment ça va venir gratter ça va venir un peu nous piquer ce matin, hein, je vous dis, forcément ça va piquer charnellement, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi, hein. Vous allez voir que je m'appuie sur la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Donc je vais essayer, s'il vous plaît, d'être nuancé, parce que on me reproche des fois d'être peut-être un peu trop brute de pomme et tout. Donc ne m'en voulez pas, c'est aussi un caractère que j'apprends à changer. Mais le fait est qu'il faut lire ce qu'il y a derrière. Ne soupçonnez pas le mal chez moi, c'est pas du mal que je veux pour vous, mais voyez les paroles qui sont derrière, d'accord? Pas la manière dont elles sont dites, pas le personnage, ça importe peu finalement. Ce qui importe, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce message, en fait, je l'ai concocté, finalement, c'est toute l'expérience que j'ai vécue cette année et toutes les démarches que j'ai pu entreprendre avec Dieu. Et les effets positifs que j'ai notés. Et voilà. On m'a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, on m'a fait la réflexion suivante. Alors moi, je vous donne un conseil. Enfin, je vous dis ce que je pense. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, examinez ce qui est dit. Ne rejetez pas en bloc si ça vient vous piquer. Examinez ce qui est dit de vous. Je crois qu'il y a bien des gens qui voient nos imperfections, et c'est notamment ceux qui nous entourent, ceux qui nous connaissent bien, nos proches, voient ce qui, en nous, n'est pas forcément la bonne chose. Examinons ce que les gens nous disent de nous. Et on m'a dit comme ça, on m'a dit, j'ai l'impression que tu essaies de plaire aux gens, et que tu fais tout ce que tu fais pour avoir de la reconnaissance de leur part. Charnellement, ça m'a piqué. J'ai même pas réagi, j'ai entendu, j'ai écouté. Et J'ai dit, j'entends ce que tu me dis. Et j'ai décidé de sonder mon cœur sur cette parole. J'ai dit, Seigneur, admettons qu'il ait raison. Ben, ça craint, quoi. Donc, j'ai sondé mon cœur. Est-ce vrai ou pas? Est-ce que je fais ça pour vous plaire à vous? Alors voilà, ma réflexion commence ainsi avec Genèse 3, versets 4 à 5, s'il te plaît. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Une autre version dit, « Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est pour ça que j'ai intitulé ce petit message « Des petits dieux ». Effectivement, lorsque le péché est entré dans nos vies, nous avons commencé à nous construire un royaume dont nous sommes devenus les dieux. Et que nous avons nous-mêmes ordonné bien ou mal ce qui en font les lois de nos petits royaumes. Nous avons construit nos royaumes en fonction de qui nous étions, en fonction de la famille dans laquelle nous sommes nés, en fonction des connaissances que nous avons eues étant plus jeunes, en fonction de l'influence des gens qui nous entourent. Nous ne connaissions alors pas le Seigneur. Je voudrais imager ça avec la photo de mon jardin, photo numéro 1. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, c'est bien, non? Ça, c'est mon jardin. Pour ceux qui sont déjà venus à la maison, vous reconnaissez peut-être. Alors, je vais faire un parallèle entre mon jardin et moi. Voilà, ça c'est moi. En tout cas, c'est ce que je veux bien vous montrer de moi. Alors, plusieurs réflexions de votre part. Moi je me connais. Hein. Parmi vous, en regardant cette photo, il y en a qui diront « Ouais, enfin... » Alors attendez, pardon. Moi quand je vois cette photo, je suis plutôt fier en fait de mon jardin. Je me dis, voilà, c'est vert au moins, c'est pas tout grillé comme on voit beaucoup de jardins en ce moment. Je me dis, c'est pas trop mal, finalement. Mais vous allez avoir ces réflexions. Ouais, enfin, c'est pas non plus un gazon de golf. Il y a quand même des feuilles mortes. C'est pas de l'herbe fraîche, on voit bien que c'est plutôt un mélange. Ben, vous savez quoi, vous n'avez pas tort, effectivement. Tout est vrai dans la description que vous venez de faire de cette image. Mais d'autres diront maintenant ceci. Oh waouh, comme j'aimerais avoir un gazon aussi vert que le sien. Comment est-il arrivé à obtenir un si joli gazon? Allons prendre quelques conseils auprès de lui. Et à ces personnes, je dirais aussi, c'est vrai. J'ai travaillé pour avoir un gazon comme ça. J'ai semé, j'ai ressemé, j'ai tondu, j'ai arrosé. On peut mieux faire, mais beaucoup d'efforts ont déjà été fournis pour avoir ce résultat. Et d'autres, ceux qui me sont plus proches et qui me connaissent mieux, qui me connaissent bien, savent qu'avec cette photo, j'ai trafiqué la réalité de mon jardin. Et que je ne vous ai montré de moi que ce que je voulais que vous voyiez. Et ils ont bien raison. Car en effet, quand on y regarde de plus près, voici l'état réel de mon jardin. Deuxième photo, s'il te plaît. Pourquoi vous moquez comme ça? C'est moi. Hein. C'est aussi mon jardin. Alors là aussi, on va commenter. Et les mêmes personnes diront finalement, il nous a menti. L'herbe finalement n'est pas si verte et ses conseils sont un poison. D'autres diront, c'est pas si catastrophique. L'ensemble reste plutôt agréable. On voit que ça reste entretenu. Et regarde, il est précautionné comme Jérémie, il a mis des pas japonais. Voilà, pour éviter d'abîmer quand même l'herbe qu'il essaye tant bien que mal de gérer, vous voyez ? Il est précautionneux, ce Jérémie. Et d'autres vont faire une comparaison avec leur propre jardin, en disant qu'au final, le leur est meilleur et plus joli que le sien. Ou, à contrario, qu'il est peut-être moins beau. Et d'autres diront, il ne m'intéresse pas, ce jardin. Alors moi, j'ai une question. Que puis-je enlever ou ajouter au regard que vous portez sur moi ? Que puis-je ajouter ou enlever au jugement que vous portez sur moi ? Et vous êtes mes influenceurs. Vous êtes ceux qui donnent votre avis sur tout. Vous êtes ceux de qui j'entends les choses, de qui j'entends les conseils ou les remarques. Vous êtes mes influenceurs. Mais alors, qui suis-je, Seigneur ? Suis-je l'herbe verte ou suis-je l'herbe sèche ou suis-je un tout ? Et c'est là qu'est ressortie cette réponse. Parce que je vous rappelle qu'en fait, ce dont je vous parle, c'est le fruit d'une réflexion que j'ai eue quand on m'a posé la question, lorsque j'ai sondé mon cœur. C'est pour ça que je vous dis tout ça. La réponse qui en est ressortie, c'est « Je suis un petit Dieu ». Et vous allez comprendre pourquoi. « Je suis un petit Dieu et j'articule mon royaume de la manière que je veux ». Les lois qui régissent mon royaume sont les miennes. Ce que j'ai envie de vous dire, je vous le dis. Ce que j'ai envie de vous cacher, je vous le cache. Vous ne connaissez pas les secrets de ma vie. Vous ne connaissez pas d'où je viens, qui je suis. Ce que je vous montre, c'est seulement superficiel. Pourtant, vous vous donnez à cœur joie de me juger, de juger l'état de mon jardin. J'ai façonné ma vie depuis mon plus jeune âge, à tenter de lui donner un sens. Et je me suis construit un royaume. J'ai monté des forteresses, j'ai établi mon confort au sein de mes murs, avec ce que j'avais, avec qui j'étais. J'ai construit des meurtrières pour faire fuir mes adversaires. J'ai mis des clés sur toutes les portes, dont une énorme sur la porte principale. Puis, vient le jour de la délivrance. J'ai rencontré le Seigneur. Vous savez ce que j'ai fait quand j'ai rencontré le Seigneur ? Je lui ai dit, Seigneur, rentre dans mon royaume. Mais Seigneur, quand tu vas rentrer dans mon royaume, reste ici assis. Je te prie. Et je te donnerai les clés des portes que je veux bien te donner. Tu n'entreras dans une chambre que si je te donne la clé. Alors reste ici assis dans le salon principal. Et d'avoir fait ça, j'ai même éprouvé une grande fierté d'avoir enfermé le Christ dans mon royaume. Ensuite, j'ai prêché la bonne nouvelle et j'ai dit, oui, le Seigneur m'a libéré de l'emprise du péché et de son pouvoir. Il veut toi aussi te rendre libre. Et pendant ce temps, Jésus lui restait enfermé dans mon royaume. Alors oui, je l'ai mis sur un trône élevé hein, dans mon royaume. Hein. Il était sur le trône de la salle du lieu saint de mon royaume. Je l'en ai fait roi. Il est le roi de mes lois. Et voilà pourquoi certains d'entre vous ont vu la photo qui va suivre de ces drôles de cages, si tu veux bien mettre Voilà. Vous comprenez peut-être un peu mieux maintenant où je veux en venir. Ce sont des photos de châteaux-cages. Qu'est-ce que vous pensez de ces cages ? Celle-ci est jolie, oui, je te l'accorde. Mais l'autre ? Un peu triste, un peu tristounette, hein ? Reste une cage, quoi. Eh bien, le problème, en réalité, le problème, c'est que ça reste des cages. Et que c'est dedans que nous avons enfermé Jésus. Alors, d'un point de vue extérieur, finalement, ce n'est pas si glorieux. Les cages ne sont plus aussi jolies. En fait, ça ne donne même pas envie du tout. Nous avons beau prêcher l'évangile depuis nos cages, la résonance est nulle ou très faible en fonction de la cage. Or, lorsque nous avons accepté Jésus dans nos vies, ce n'était effectivement pas pour le faire rentrer dans nos royaumes, mais c'était pour le rejoindre dans le sien, laissant derrière nous tous nos dieux. Qui sont nos dieux ? À l'instar des Babyloniens, Habacuc 1, verset 11, leur propre force, voilà leur dieu. Quoi d'autre ? L'argent est-il ton dieu ? La colère est-elle ton refuge ? La dépression est-elle une solution ? Le chômage un mode de vie sain ? La maladie une excuse ? La tristesse un état ? L'ivresse une porte de secours ? La sexualité votre reine ? La pornographie la tapisserie de la chambre principale ? Qui sont nos dieux ? Puis, nous demandons à Jésus de rentrer dans ma chambre principale et d'y rester avec moi. Vous savez ce qu'il fait Jésus ? Il rentre dans la chambre principale que vous avez tapissée de tous vos dieux. Et je dis à Jésus, merci Jésus d'en accepter l'état. Oui, Jésus accepte l'état, c'est vrai. Mais reconnaissons volontiers que nos royaumes, puisque maintenant vous savez que ceci, c'est nos vies, ces photos sont l'image de nos vies. Et nos royaumes sont tristes à voir. Non seulement ils sont tristes à regarder, mais la vie à l'intérieur, c'est pire. Nous y sommes devenus les esclaves de nos propres régences, de nos propres lois. Que fait-on maintenant avec tout ça ? Jésus nous propose de le rejoindre et d'accepter son fardeau qu'il dit être doux et léger. Il ajoute ceci dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Et j'ai choisi encore la traduction, second 21, volontairement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Acceptez mes exigences. On prend souvent un chant qui s'intitule « Je te donne tout », que nous aimons chanter, moi le premier, à tue-tête. Et je dis à Dieu de tout mon cœur « Je te donne tout ». Et après ça dit « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout ». Mais vous écoutez les paroles quand même. Hein. « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout ». Si nous croyons réellement ce que nous chantons, si nous considérons que nos vies lui appartiennent, alors nous devons être en capacité de lâcher tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous retient, et ainsi donner du sens à ce que nous chantons, et que nous croyons vrai, puisque nous croyons ce que nous chantons, que ce que nous chantons est vrai. Dans le royaume qui nous est proposé, qui plus est, le roi est un lévite. Quand je dis le roi, je parle du roi des rois, je parle de Jésus. Jésus est notre lévite. Il s'est mis au service de sa création. Il s'est mis au service de son peuple à qui il a dit « Mon fardeau est doux et léger ». Jésus est l'associé principal de nos vies. Dieu, le premier actionnaire de toutes nos entreprises. Nous avons volontairement accepté ce principe quand nous avons fait de lui le nouveau régent de nos vies, le nouveau roi. Vous savez pourquoi Jésus a accepté de rentrer dans la chambre principale, tapissée de tous nos dieux, dans le seul et unique but, écoutez bien, dans le seul et unique but de détapisser. Il n'en a que faire de vos dieux. Soyons clairs. Il n'en a que faire de vos dieux. Il n'est là que pour détapisser. Et là, ça peut-être vous piquer charnellement, mais peu importe. Le but final, c'est de détapisser. Peu importe, excusez-moi du peu, du royaume que vous vous êtes construit, peu importe d'où vous venez, qui vous pensez être, le seul et unique but que Jésus a quand il a accepté de vous rejoindre dans cette salle pourrie, c'était de détapisser. C'est tout. Et ne me faites pas dire le contraire, je vous en supplie. Dieu, en la personne de Jésus, lorsqu'il rentre dans une salle pourrie de nos vies, ce n'est pas pour s'y complaire. Hein. C'est pour détapisser, détruire tout ce qu'il y a. Mais il le fait pour rentrer en contact avec nous. Le bébé est difficile à faire sortir, la naissance difficile, il le sait bien. Il faut qu'il rentre quand même à l'intérieur pour pousser le bébé par derrière. Il voit bien qu'on est incapable de rejoindre son royaume. Si nous disons « Jésus, je te donne tout », alors ça implique que nous marchions en nouveauté de vie, acceptant de fait que celui qui donne les instructions maintenant, c'est Jésus. Des instructions en plus qui sont précises, qui nous ont été communiquées pour un but précis également. La liberté, le repos de l'âme dès maintenant. Il souhaite que nous soyons détachés de ce qui nous lie au monde, afin que nous puissions alors y travailler d'une manière totalement désintéressée. Soyons honnêtes et reconnaissons bien charnellement que le monde est en capacité effectivement de nous offrir beaucoup de choses que nos yeux convoitent. Soyons honnêtes, moi le premier, hein. Et que c'est à cause de ce monde que nous avons tapissé nos chambres en fonction du Dieu que nous avons servi. Mais souvenez-vous que c'est sous couvert de mensonges. Rien n'est gratuit. Et le prix est élevé. Le fruit, la mort. Nous ne courons pas pour une couronne corruptible, nous courons pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9 nous dit, c'est Paul qui précise ceci, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Et là, quand j'ai fait ce message, je répondais toujours à la question qui m'avait été posée. Est-ce que tu fais ça pour les hommes ou est-ce que, d'accord. Écoutez bien. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. 2 Timothée 2, verset 4 nous dit ceci. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Nous avons accepté de rentrer au service de Jésus, mais n'avons pas accepté de sortir de nos royaumes. Nous n'avons pas accepté de détapisser. On est coincé. Notre version dit ceci, et j'aime bien cette autre version, « Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » En effet, les règles auxquelles nous avons accepté de nous soumettre ne sont plus celles qui régissaient notre royaume. Elles sont différentes. Elles sont basées sur un principe complètement différent. Et je vous répète, et pardonnez-moi encore, hein, mais sachez ceci, les règles qui régissent vos royaumes, les règles qui régissent nos royaumes, n'intéressent personne. Il n'y a qu'une justice qui prévaut, une seule. Une seule justice prévaut. C'est celle de Jésus-Christ, en fait. Vos lois n'intéressent personne. Si les gens se mettent à écouter le petit Dieu que vous êtes, catastrophe. Si vous cherchez à faire rentrer des gens dans votre royaume, catastrophe. Sachez ceci, c'est que la personne que vous essayez de faire rentrer dans votre royaume a elle-même son royaume dans lequel elle va essayer de vous faire rentrer aussi. Selon ses lois, il va y avoir un mixte de lois. Bonjour la galère. Et il est vrai que nous mettrons une énergie redoutable à faire rentrer le plus de personnes possible dans nos petits royaumes, à se faire accepter du plus grand nombre, si tant est que cela est possible. Nous allons faire en sorte que les gens qui rentrent dans nos royaumes servent nos ambitions personnelles. Et si ces personnes venaient à disparaître de nos royaumes, ce serait triste, alors on chercherait à en faire rentrer d'autres. Je ne veux pas que ce que je suis en train de vous dire soit choquant pour vous. Ce n'est pas le but. Mais si je dis cela, c'est parce que malheureusement, la tapisserie dans la chambre principale est toujours au mur. Toujours la même et éternelle tapisserie collée au mur. On en a conscience, mais nous ne faisons rien pour détapisser. Ce que je voudrais dire également, c'est que je ne suis pas en train de dire que vos vies n'intéressent personne. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que si Jésus lui-même a accepté d'entrer dans votre royaume, je vais vous dire un truc, à combien plus forte raison nous tous accepterons d'y rentrer aussi. Parce que c'est l'amour aussi. Nous acceptons l'autre comme il est. Et si on reçoit une invitation d'entrer dans le royaume, ben on y rentre. Mais nous avons accepté de sortir de nos royaumes. Et celui auquel nous appartenons maintenant n'a pas de frontières. Et maintenant qu'on a accepté cette nouvelle naissance, parce que nous l'avons acceptée, pas de couteau sous la gorge, nous l'avons acceptée, nous accepterons alors de nous concentrer sur le seul point de vérité, le point de vue de Dieu, et voir les choses en version grandeur nature. Nous pouvons faire parler la parole de Dieu très simplement aussi. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit elle-même. Hein. La parole, elle peut apporter la vie, mais elle peut aussi donner la mort. D'accord ? On peut manipuler même la parole de Dieu. On peut dire que Paul, le grand apôtre Paul, ses paroles étaient trop dures. On peut dire qu'après tout, Pierre était un renégat. On peut dire après tout que Jean lui-même était le fils du tonnerre. Il devait probablement avoir un caractère fort difficile. On peut dire plein de choses sur les autres quand on les regarde faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce ne sont que des excuses. Ce ne sont que des excuses. On regarde les autres faire, on se dit eux-mêmes n'étaient pas à la hauteur, moi non plus. Ouh, la miséricorde de Dieu et sa grâce. Écoutez ce que Jésus dit, parce que ce qui compte, c'est ce que Jésus dit. Et Jésus dit ceci, et encore une fois, j'ai choisi la traduction volontairement, dans Matthieu 4, verset 17. Je te l'ai donné celui-là, Matthieu 4, verset 17. Okay. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Nous parlions d'un enfant à naître. Cet enfant ne naîtra pas sans changement d'attitude. Il ne naîtra pas. Il restera où il est. La justice de Dieu est supérieure à la nôtre. Nous ne pouvons d'aucune manière faire confiance à notre ventre. Nous ne sommes pas non plus des auto-justiciers. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous devons veiller à la teneur que contient notre sel. Je rigole parce que j'avais, lors d'une maisonnée, j'avais parlé de ça, et du coup, peut-être certains d'entre vous l'ont entendu, ceux qui étaient là. Écoutez bien, j'ai appris récemment que le sel qui est commercialisé sous le nom notamment de la baleine, que tout le monde connaît, donc j'ai volontairement choisi celui-ci, contient du E535. C'est dans la liste des ingrédients, vous vérifierez chez vous en rentrant. Le E535, c'est du ferrocyanure de sodium. Alors évidemment, on en met en petite quantité. Il s'agit d'un additif alimentaire qui ne fait pas l'unanimité dans son utilisation. Du coup, j'ai fait des recherches. Mais quand même, on en met. Et nous apprenons que le E535 provoque des allergies, notamment. C'est du poison en petite quantité, mais c'est du poison. Est-ce que nous qui sommes le sel sommes des dispensateurs de ce petit poison? Est-ce que dans notre sel, sous couvert de conservateurs, nous avons mélangé ce petit sel à notre petite concoction de royaume et loi interne et l'avons dispensé aux autres? Avons-nous dispensé du sel avec du poison à l'intérieur? Existe-t-il dans nos enseignements, dans nos jugements, dans notre manière d'être, dans nos caractères, du sel qui provient encore de nos petits royaumes? Si nos enseignements se basent sur nos propres lois, ne sommes-nous pas comme un petit poison ayant l'allure d'innocence, qui se distille doucement dans nos propres corps? Pire, qui maintenant se distille dans la vie de ceux qui nous entourent. Je vous conseille maintenant vivement de ne plus acheter le sel la baleine, car il existe d'autres sels dans lesquels il n'y a aucun additif et c'est du 100% sel. Ça existe même en grande surface. Veillez à regarder ce qui est écrit derrière sur la liste des ingrédients. Si toutefois, vous croyez encore que votre sel est bon pour la consommation? Lisons ceci ensemble, Apocalypse 3, verset 17. Puisque, au milieu de nous, il y aura toujours des gens qui ne se remettront pas en question. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, quand on a conscience de quelque chose dans nos vies, on ne sort pas. Il faut sortir, hein. Il faut. Mes frères et sœurs, mais vraiment, je suis que je ne comprends pas. On a conscience de quelque chose qui est pourri en nous, et on dit Seigneur, viens Jésus. Bon. Apocalypse 3, verset 17. Regardez, hein. Il y en a qui disent encore je suis riche, hein. Ils sont obstinés. Hein. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Écoutez bien. Que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Sachez ceci, ceux qui demeurent encore dans leur royaume pourri, les autres le voient. Même si vous ne voulez pas en sortir, les autres le voient. C'est ça la honte de votre nudité. Les gens savent très bien, ils voient qu'est-ce que... Je veux dire, quand je vous ai montré la photo de mon jardin, il y a effectivement ce que je vous montre, mais les gens qui vous connaissent bien, ils connaissent bien l'état réel de mon jardin. Ils ont vu la honte de ma nudité. Et certains endurcissent encore leur cœur en disant « j'ai raison ». Non, tu as tort. Maintenant, sache-le. Le seul jardin qui soit entièrement vert, c'est celui de notre Christ Jésus. Les seules instructions qui prévalent, ce sont les siennes. Et son enseignement dépasse tous les autres. Jacques 1, verset 22 nous dit ceci. Tu l'as dit tout à l'heure, Alain. Je te l'ai donné celui-ci. Pardon. Jacques 1, verset 22 nous dit ceci. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Vous avez vu ? En vous abusant par de faux raisonnements. Vous connaissez le « j'ai raison » ? Est-ce que vous le connaissez, celui-ci ? Est-ce que vous savez que votre « j'ai raison » est basé sur un faux raisonnement ? Et est-ce que vous savez que celui à qui vous vous adressez a aussi raison ? Comment on fait ? Comment on fait si tout le monde a raison puis que tout le monde en fait a tort au final ? Ben oui, mais c'est le petit sel au 135, là. Alors, est-ce que nos raisonnements sont charnels ou est-ce que nos raisonnements sont spirituels ? Est-ce que nos raisonnements sont issus de nos anciens royaumes ou peut-être royaumes toujours actuels ? Ou bien ce sont des raisonnements du nouveau royaume auquel nous appartenons ? Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous parle d'une justice supérieure, supérieure à celle des scribes et des pharisiens, et il évoque notamment cette loi. Matthieu 5, verset 38-39, s'il te plaît. Donnez-lui. Ah, je ne sais pas. Pardon. Matthieu 5, verset 38-39. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. J'ai relu ce passage quand je le lisais. J'ai relu plusieurs fois et je me suis mis à pleurer là-dessus. J'ai dit, Seigneur, c'est dur pour mon orgueil en fait. C'est dur. Ta justice supérieure est dure pour mon orgueil. Je ne dirai pas tout ce chapitre, mais il en rajoute plein. Et vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis maintenant que les choses changent. C'est une évidence, nos propres justifications, nos émotions. Celui que nous étions ne peut plus se comparer à celui que Dieu attend maintenant que nous soyons, selon sa justice supérieure. Quand Jésus rajoute et dit ceci, « Mais moi je te dis, aime ton ennemi, bénis celui qui t'a maudit, fais du bien à celui qui ne t'aime pas, prie pour celui qui te maltraite et qui te persécute. » N'est-ce pas le fruit d'une justice supérieure ? Qu'y a-t-il de charnel là-dedans ? Rien. C'est le fruit d'une justice supérieure. Impossible, effectivement, à accomplir charnellement. Pourtant, est-ce que c'est parce que Jésus nous demande d'être ? Alors, est-ce que nous faisons tous ces efforts pour plaire aux gens ? N'est-ce pas tout simplement le but que nous devons atteindre ? N'est-ce pas tout simplement notre réponse aux exigences de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Si quelqu'un venait à te dire ceci, sois toi-même et accomplis-toi dans ta destinée. Je vous le dis très honnêtement, Méfiez-vous du E535 dans ces paroles, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une part de vrai, mais si tu dis à quelqu'un « sois toi-même », il va falloir faire en sorte que cette personne ait bien compris de quel royaume tu veux parler. Sois toi-même, non pas dans ton royaume, ne rentre pas dans la destinée selon tes propres lois, celle de ton royaume. On te parle, sois toi-même, dans le royaume auquel tu appartiens. C'est une nouvelle destinée. Méfiez-vous du E535. Romains 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, pas de nos royaumes, du sien toujours, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié par lui. Je me suis souvent dit en lisant la parole, j'ai dit, mais Jésus, mais tu es fou en fait. Pardon, hein, ne soyez pas choqués par ça, mais vous savez pourquoi je disais ça? C'était le petit Dieu qui parlait. Le petit Dieu que je suis dit à Jésus, Dieu avec un grand D, tu es fou. Et c'est tout à fait paradoxal, parce que je me suis souvenu, après j'ai ri en fait, je me suis dit, c'est à cause de cette folie que je suis tombé amoureux de toi, Jésus. C'est parce que tu es fou que je t'aime. C'est parce que ta justice est supérieure à la mienne que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime, Jésus. C'est ton royaume qui m'attire. Souvenons-nous de notre premier amour. 1 Corinthiens 1, verset 18 nous dit ceci. Car la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous, qui obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. Aujourd'hui, effectivement, nous nous efforçons de ne plus considérer la croix comme une folie, mais comme notre nouvelle vertu. Cette nouvelle vie nous amène à élargir l'espace de notre entendement. Ce que je vais dire maintenant, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. Mais s'il vous plaît, réfléchissez-y. Ne partez pas du principe du « j'ai raison ». Et lui, il a tort. Ayons tous ensemble raison. Écoutez, par amour, je peux dire la vérité. Par amour, je peux aussi cacher la vérité. Par amour, je peux m'abstenir de dire à quelqu'un que je considère comme un pécheur que c'est un pécheur, dans le but d'éviter d'heurter sa sensibilité, sous couvert de l'amour que je lui porte. Je le répète, hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Hein. Par amour, je vais lui dire la vérité, parce que j'ai été heurté par son péché. Et c'est sous couvert de l'amour que je vais lui dire la vérité. Mais de quel amour on parle ? Qui a été heurté par le péché de l'autre ? De quel amour on parle ? Pour que vous alliez dire au pécheur que c'est un pécheur, est-ce que c'est votre amour propre ? De quel amour parle-t-on ? Qui a été heurté ? Le pécheur ou vous ? Vous comprenez ? C'est peut-être une petite nuance, mais c'est le E535, ça. Est-ce que vous avez dit la vérité à cause du don gratuit de l'amour? Ou est-ce que c'était votre amour propre? Ouais, c'est souvent qu'on veut jouer les bons samaritains. Mais le seul blessé dans l'histoire, c'est nous. Le seul blessé dans l'histoire, le pécheur, lui, n'a pas encore conscience. Le seul qui a été blessé dans cette histoire, c'était nous. Nous ne connaissons pas l'histoire du pécheur. Et avant même de lui faire don du don gratuit de l'amour, c'est avec du E535 qu'on va essayer d'aller le relever, vous comprenez? C'est avec notre amour propre. Quand on fait ça, parfois, c'est notre royaume qui a été heurté. On a voulu dénoncer le péché parce que notre royaume a été heurté. Or, effectivement, vous pourriez avoir raison de dénoncer. Mais c'est les raisons qui ne sont pas bonnes. Il n'y a qu'une seule raison, qu'un seul fondement. Et je pense qu'il est temps, à cause de cette nouvelle naissance à venir, de fermer définitivement les portes de nos royaumes et de brûler les tapisseries. Si quelqu'un pense encore ne pas avoir de tapisserie, alors demandez aux influenceurs qui sont autour de vous. Les influenceurs sont les frères et sœurs. Ils vont rapidement vous donner quelques exemples et quelques couleurs de vos tapisseries. Car si nous pensons pouvoir nous cacher derrière une photo d'herbe verte, tout le monde sait ce à quoi ressemble vraiment mon jardin. Quel est le but maintenant ? Déconstruisons nos royaumes. Pièce après pièce, déconstruisons. Mais déconstruisons. Comment ? En laissant entrer Jésus. Puisque de toute façon, nous avons constaté que nous n'arrivons pas à sortir nous-mêmes de nos royaumes. Alors ouvrons toutes les pièces. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout au départ que nous avons accepté de laisser rentrer Jésus dans nos royaumes, mais que nous avons fermé toutes les portes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Laissez Jésus entrer. Comment on fait pour laisser Jésus entrer? Eh bien, on va laisser entrer des frères et sœurs de confiance dans ses portes, dans ses chambres. On va aller voir un frère ou une sœur qui a connu la même chose que nous et qui en a été libéré. On va aller voir un frère ou une sœur chez qui nous voyons des fruits. On va aller vers lui et on va lui dire, viens, je te prie, rentre avec moi dans cette chambre et aide-moi à détapisser. Sachez encore ceci, pour finir, que ceux qui prétendent encore ne pas avoir besoin d'aide des frères et sœurs, que ceux qui prétendent encore vouloir laisser ces portes fermées, sont ceux qui ont les royaumes les plus ternes possibles et que nous le voyons. Je veux vraiment que vous soyez bénis par ce message, en fait, parce que nous avons envie de sortir du ventre, parce que nous avons envie de voir des choses nouvelles se manifester dans nos vies personnelles et en communauté, dans la communauté. Parce que définitivement, ces murs tomberont un jour, effectivement, mais pas tant que nous demanderons aux gens du dehors d'entrer dans nos royaumes. Ça ne marchera pas. Changeons et devenons à l'image de Christ des êtres parfaits. C'est là, c'est le but à atteindre. Et rentrons ensemble dans cette destinée. Ensemble, je dis ensemble, parce que ouvrons les portes de nos cercueils et laissons entrer les frères et sœurs. Laissons les gens prier pour nous. Je vous en supplie, laissez les gens rentrer dans les lieux les plus ténèbres de vos existences. Ils vont vous aider à sortir. Mettez en lumière. Mettez en lumière, mais seul vous détenez la clé. Parce que rappelez-vous ceci, quand Jésus se tient à la porte, il frappe, il ne défonce pas la porte, hein. Il frappe dans l'espoir que quelqu'un vienne lui ouvrir. Voilà, soyez bénis, les amis. Et puis que ce message soit une douceur, en fait, pour nos cœurs. Pourquoi ? Prenez mon fardeau, il est doux et léger. Ce que je vous dis n'est pas une chape de plomb que je fais couler sur vos têtes. C'est une libération. Alors soyez bénis dans le bon nom.